Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC.
Il est 7h sur RMC. Bon réveil à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'alerte attentat est désormais maximale. Le niveau a été relevé au seuil le plus élevé hier soir. Conseil de défense à l'Elysée dans la foulée de l'attentat qui a fait au moins 137 morts en Russie. C'était vendredi. Tiens, deux images d'ailleurs hier à Moscou. Le recueillement d'abord des Russes devant la salle attaquée et les quatre assaillants présumés placés en détention provisoire après un passage express devant un tribunal. Tiens, et puis dans ce journal, on va vous raconter aussi l'ambiance de folie hier soir à Montpellier au championnat de France de tennis de table avec un duel fratricide entre les frères Lebrun. C'est l'aîné qui a gagné.
Et après ce match de folie, eh bien on sera avec le père des deux champions, le père des frères Lebrun, Stéphane, qui sera le témoin du jour en direct juste après votre journal, Quentin. La France rebascule en alerte attentat maximal ce matin.
Le niveau a été relevé hier soir dans la foulée donc de l'attentat revendiqué par l'État islamique qui a fait au moins 137 morts vendredi à Moscou. On va y revenir dans un instant. La décision a été prise hier soir lors d'un conseil de défense à Romain Cluzel.
L'un des principaux facteurs qui pousse le gouvernement à hausser son niveau d'alerte, c'est l'identité du groupe qui revendique l'attentat de Moscou, l'État islamique au Khorassan. Selon Matignon, cette branche de l'État islamique a été impliquée dans plusieurs projets d'attentats déjoués récemment en Europe, notamment en France et en Allemagne. Reste à déterminer le nombre de troupes supplémentaires mobilisées. Une réunion se tient ce matin pour déterminer plus précisément la mise en place du dispositif de sécurité. La dernière fois que la France s'est retrouvée dans cette situation, c'était en octobre dernier, après l'attentat d'Arras et l'assassinat du professeur Dominique Bernard. Le niveau urgence attentat avait permis, par exemple, de renforcer les patrouilles sentinelles avec jusqu'à 7000 soldats supplémentaires. Cette alerte était restée en place pendant 3 mois jusqu'en janvier.
Alors, deux images marquantes. Donc, hier en Russie, c'était une journée de deuil national. Des milliers de Russes se sont recueillis devant la salle de spectacle où a eu lieu l'attaque. Et dans la soirée, les quatre assaillants présumés ont été placés en détention provisoire qui ont fait l'objet d'une torture assumée de la part des services russes pendant 24 heures. Les images d'ailleurs de leur passage au tribunal à Moscou ont été diffusées, hein, Clara Gabillé.
Oui, l'un d'eux arrive en fauteuil roulant, escorté par des médecins, les yeux fermés, presque inconscient dans la cage en verre réservée aux accusés. Les trois autres en veste de survêtement sont conduits tour à tour dans le box, menottés, pliés en deux par des policiers. Un de ces hommes a un imposant bandage à l'oreille, un autre a le visage tuméfié, des images qui témoignent des violences qui leur ont sans doute été infligées par des militaires russes, comme en témoignent certaines vidéos publiées ces derniers jours. Trois des quatre accusés ont plaidé coupables sur les lieux de la fusillade. Les policiers russes disent avoir retrouvé 2 fusils d'assaut, 500 balles et 28 chargeurs. Cet arsenal appartenait selon eux aux 4 assaillants. Ces 4 hommes restent en détention provisoire pendant au moins 2 mois, dans l'attente de leur procès dont la date n'a pas encore été fixée.
La Russie, vous le savez, fait un lien entre l'attaque et l'Ukraine, ce que dément les Ukrainiens et contredisent les Américains. C'est dans ce contexte que la sécurité sera renforcée ce matin devant une quinzaine de collèges et de lycées des Hauts-de-France. Après de nouvelles menaces d'attaque, des piratages encore une fois via les espaces numériques des élèves, ça s'est passé pendant le week-end. On a les premiers résultats ce matin de l'élection présidentielle au Sénégal, élection qui est scrutée de près après 3 ans de troubles politiques dans ce pays d'Afrique. C'est le candidat anti-système qui est donné en tête, félicité par 5 de ses 16 adversaires. Le camp au pouvoir assure pourtant qu'il y aura un second tour. Le Quai d'Orsay commence à évacuer le millier de ressortissants français actuellement bloqués en Haïti, l'île qui est en plein chaos depuis des semaines avec de violents affrontements entre gangs, plus aucune liaison aérienne, Victor Joannin, comme les États-Unis, donc la France évacue.
Oui, pour l'instant, seules les personnes âgées ou sous traitement médical peuvent bénéficier de cette évacuation accompagnée, si elles le souhaitent, de leur famille, précise le Quai d'Orsay. Des hélicoptères de l'armée les déposent en mer sur un porte-hélicoptère, puis un bateau les transporte jusqu'en Martinique ou en Guadeloupe, à un millier de kilomètres de là, loin des violences qui rongent Port-au-Prince, la capitale désormais contrôlée en grande partie par des gangs armés qui cherchent à prendre le pouvoir. Leur attaque, coordonnée de deux prisons au début du mois, a causé la libération de milliers de détenus. Des dizaines de milliers d'Haïtiens ont déjà fui la capitale en deux semaines et la moitié de la population manque de nourriture, selon les Nations Unies.
Il est 7h05 sur RMC. Le propriétaire du club de foot d'Angers, de retour devant la justice cette semaine, lui qui a déjà été condamné à 2 ans de prison pour des agressions sexuelles sur 6 femmes, c'était vendredi. Saïd Chaban est donc rejugé à partir d'aujourd'hui, avec 4 autres prévenus à Bobigny pour blanchiment, cette fois dans une affaire de transactions financières douteuses liées à des transferts, Nicolas Pelletier.
Dans ce dossier, Saïd Chaban aurait versé des sommes d'argent lors de transferts de footballeurs à des hommes qui se prétendent agents de joueurs. Pourtant, plusieurs d'entre eux ne possèdent pas la fameuse licence pour exercer la profession en France. Chaban est donc soupçonné d'avoir utilisé ce réseau illégal pour recruter des joueurs au SCO d'Angers. Pendant des mois, les enquêteurs ont épluché les facturations pour remonter les flux financiers. Plusieurs clubs de Ligue 1 avaient aussi reçu la visite des policiers du service central des courses et jeux. L'homme fort du SCO d'Angers avait eu 36 heures pour s'expliquer face aux enquêteurs. Il nie les accusations. Selon nos informations, la justice a par exemple saisi plus de 370 000 euros sur des comptes bancaires et une maison d'une valeur de 200 000 euros.
Deux informations concernant les Jeux Olympiques ce matin. D'abord, le nageur Florent Manodou répète sur RMC, c'était hier soir dans l'émission de Marion Bartoli, qu'il se verrait bien porte-drapeau de la France cet été pour la cérémonie d'ouverture. Florent Manodou a encore gagné sur 50 mètres nage libre. Hier, c'était dans les Yvelines. Et puis, on a assisté à un duel fratricide en tennis de table entre les frères Lebrun au championnat de France de Montpellier. Chance de médaille cet été pour les Jeux Olympiques. L'aîné Alexis a battu le cadet Félix, qui est mieux classé que lui, mais qui ne l'a jamais battu. Et pour fêter ça, eh bien, il est carrément monté sur la table pendant que son frère pleurait. Racontez-nous, Julien Landry.
Un saut à pieds joints sur la table de ping-pong au milieu de la salle, les doigts levés vers le ciel, un grand cri pour libérer ce bonheur avant d'entamer un clapping avec les 4000 supporters ravis. Quelques minutes après ce moment d'extase, l'aîné des frères avait encore du mal à réaliser.
Ouais, un truc de fou, je sais pas les mots là, c'était incroyable. Je pense qu'on a vécu un moment extraordinaire, on va s'en souvenir longtemps.
Pour Félix, inconsolable pendant de longues minutes, la pilule était difficile à avaler pour lui qui n'a encore jamais réussi à battre son frère.
C'est pas facile, je pense que j'ai vécu un des matchs les plus durs, en tout cas en termes d'émotion. J'ai essayé de faire un veille, de me rebooster. Bah, je suis content pour lui forcément qu'il soit champion de France ici, chez lui. Mais là, j'aurais aimé que ce soit moi.
Mais Alexis lui a rendu le plus bel hommage et le meilleur des réconforts.
C'est un immense champion et je pense que bah, c'est lui notre leader et on va aller chercher des belles choses ensemble, je pense.
Les deux frères ont rendez-vous à l'Arena Paris-Sud à partir du 27 juillet pour aller décrocher une médaille olympique ensemble et faire un magnifique clapping côte à côte.
Voilà pour l'ambiance à Montpellier. Apolline, il faudra demander au papa comment va le petit frère.
Hein, ouais. C'est la première question que je lui poserai dans une minute.
Bon, et puis un mot de rugby, on a certainement vécu le match de la saison hier en top 14. Bordeaux a gagné sur le fil 31 à 28 contre Toulouse. 9 essais à la clé. C'était le retour à 15 d'Antoine Dupont pour les Toulousains. Les Bordelais remontent à la 3e place du classement.
C'était le journal de Quentin Vinat tout à l'heure pour le journal de 8h. Il est 7h08.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Et vous l'avez entendu. La troisième balle de match aura été la bonne. Alexis a toujours l'ascendant sur son frère. Il en a sauté à pieds joints sur la table au milieu du cours. La troisième balle de match, évidemment.
Il a sauté à pieds joints alors que son frère pleurait. C'est vraiment la difficulté, on l'imagine, pour le père d'Alexis et Félix qui sera justement avec nous dans un instant. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h10 sur RMC. Bon réveil à tous.
Le témoin RMC.
Et hier après-midi sur RMC, vous l'avez vécu en direct, la finale du championnat de France de tennis de table et un duel entre frères. Alexis, l'aîné, 20 ans. Félix, le cadet, 17 ans. Et c'est l'aîné qui a gagné. Quel moment cornélien pour vous, Stéphane Lebrun. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes évidemment le père de ces deux pépites du sport. Évidemment, d'abord, félicitations.
Merci félicitations beaucoup.
Parce que qui aurait gagné. Vous étiez évidemment le père du champion, quoi qu'il arrive. Mais on a quand même tout de suite envie d'avoir une pensée plutôt pour Félix, le cadet qu'on a vu sangloter hier, évidemment, à la fois fier pour son frère aîné et déçu pour lui. Comment va votre cœur à vous, votre cœur de père ?
Bon, ça va, on tient le coup, mais c'est vrai que vous avez raison, parce que la pensée, elle est toujours du côté de celui qui perd. Donc pour les parents, c'est pas simple, pour le père, c'est pas simple, parce que c'est un peu comme si vous étiez dans une équipe de foot, mais tout le temps dans celle qui prend les buts, voilà. Donc on en donc c'est pas si simple que ça, mais on le vit avec beaucoup d'émotions, il faut pas se cacher, et c'est chouette, ouais, c'est chouette.
J'imagine, c'est magnifique,
après.
Vraiment, merci.
C'est chouette,
merci.
Après.
Non, mais merci aussi du spectacle que vous nous donnez. On a l'impression de vibrer tous. Et d'ailleurs, je dois vous dire que depuis que vos deux fils sont comme ça, vraiment au sommet, on a l'impression que ce sport est redevenu aussi un sport extrêmement populaire, où on est tous derrière eux. Ça fait des cartons sur YouTube, des cartons sur RMC. Effectivement, comment va aussi l'aîné, Alexis? On l'a vu monter sur la table. Alors, je tiens à dire... et là, c'est aussi la maman qui parle, qu'il ne faut pas sauter sur une...
Il ne faut pas le faire, mais surtout, et là, c'est l'entraîneur qui parle, il faut surtout pas le faire. Là, les tables sont très solides, mais il faut vraiment pas le faire.
Ça aurait pu mal se terminer. Mais on a vu évidemment sa fierté. Alors lui aussi, comment est-ce qu'il va et comment il était après le match?
Bah, très très bien, non très très bien, évidemment, hyper hyper fier, hyper heureux. Et puis vous savez, bah oui, il a sangloté Félix, mais 10 minutes après ils étaient ensemble et on a fêté ça. Je vais peut-être un peu l'avoir enroué,
mais je comprends. Voilà. Vous êtes parmi...
Voilà, donc on est très 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 fier. Et puis par rapport à l'engouement, c'est exceptionnel pour le ping-pong, donc fier d'eux pour ça, parce que ils emmènent le ping assez loin, ouais, voilà. Donc on a vécu un grand week-end.
Le ping, tu savais ça, Charles?
Oui, j'ai appris ça ce matin. On dit désormais le ping, mais alors justement, Stéphane, est-ce que c'était pas le meilleur moyen de préparer Félix pour les JO? Parce qu'on va rappeler que Félix, le plus jeune, est en fait le mieux classé au niveau mondial. C'est peut-être lui le favori de vos deux fils pour décrocher une belle médaille à Paris. Est-ce que c'était pas une bonne piqûre de rappel de se faire battre par son frère hier?
Oui, c'est une piqûre de rappel. Il a jamais battu, donc c'est plus qu'une piqûre de rappel. Ouais. Mais c'était surtout une piqûre de rappel par rapport à ce qui va se passer, parce qu'on a vécu un week-end. Alors évidemment, là, c'était à la maison, comme on dit, à Montpellier.
Devant une salle pleine à craquer et qui vous était à totalement acquise.
Oui, et puis on pouvait doubler, vraiment, on a refusé du monde depuis 3 semaines. C'était incroyable là-dessus, et donc je pense que ça va être incroyable aussi en Gaumont, en JO. Et effectivement, il n'y a pas de souci de le dire, c'est Félix le meilleur, Alex le sait, et en ce moment c'est Félix qui joue le mieux. Alexis a eu des performances incroyables, mais vraiment depuis un an, Alexis a perdu simplement les 3 meilleurs Chinois du monde, les 3 meilleurs joueurs du monde, et son frère, c'est tout. Ça fait plus d'un an que Félix ne perd plus personne. Donc oui, il y a des chances de médaille, et puis il y a des chances de médaille en par équipe. L'équipe de France est belle, en filles, en garçons, donc on est ravis pour le ping-pong, parce que c'est un chouette sport, hein. Je pense que vous avez tout joué, voilà.
Oui, c'est magnifique. Et puis c'est vrai que, alors on imagine que chez vous, on n'y joue peut-être pas le dimanche après-midi après le café, ou alors,
ouais, allez, on s'en...
Si, quand même, ça reste effectivement un des plaisirs aussi.
On y joue dans la piscine, parce qu'il y a des tables qui vont dans les piscines, on y joue partout, en fait. C'est ça le ping-pong, en fait. C'est pour ça que c'est un jeu populaire et c'est chouette ce qui se passe. On manquait de champions, il y avait Simon Gauzy, qui est un énorme champion, qui est le partenaire d'Alexis et de Félix en équipe de France, mais là, il se passe quelque chose, et comme tout le monde joue au ping-pong, mais en fait, on devient populaire et on est visible, on va dire, mais j'invite tout le monde, en tout cas, à jouer au ping-pong, c'est chouette.
Ah bah franchement, c'est la meilleure manière d'inviter les gens à jouer au ping-pong. J'ai quand même envie de vous demander aussi, en tant que père, Stéphane, est-ce que les deux frères, il y a une rivalité? Est-ce que comment vous avez réussi à transformer cette émulation, cette fraternité? Comment on fait ça aussi en tant que parent? Et d'ailleurs, je précise en tant que parent, parce que vous êtes évidemment entraîneur. La mère, je crois, est prof des écoles, et elle s'est mise à mi-temps pour aussi accompagner ses fils. Et je crois que vous avez également une fille, donc leur sœur, qui est dans l'événementiel et qui organisait aussi l'événement hier. Donc c'est vraiment une sorte de famille.
C'était elle la responsable de l'événement, oui. Donc oui, c'est une histoire de famille. Le ping, moi, ça fait 35 ans, m'a tout donné. Donc je ma famille, etc. Donc et puis cette rivalité, ben elle est sur la table. Elle est concurrentielle pendant la durée du match. Et puis ensuite, ben, ils sont tout simplement des frères et voilà, qui s'apprécient, qui s'aiment. Et je crois que c'est vraiment important pour eux. En plus, avec la vie qu'ils ont maintenant, parce que ce sont que des gamins de 17 et 20 ans, mais ils partent 250 jours ou 300 jours par an hors de France, de pouvoir vivre ces choses-là ensemble, parce que voilà, il y a beaucoup de temps dans les aéroports, beaucoup de temps dans les hôtels, beaucoup de temps, etc. C'est un peu comme les joueurs de tennis.
Un mot ce matin, chouette, c'est vrai, et oui. J'aime beaucoup ce mot, vous avez bien raison Stéphane, c'est très très chouette. Quelle est la suite? Les prochaines étapes?
Ils partent en Corée dès demain, donc dès aujourd'hui. Je suis encore dans la soirée peut-être. ils partent là à midi. On les amène à l'aéroport. On va déjà ranger toute la salle. Il y a beaucoup de boulot pour nous, pour les organisateurs. Mais à midi, on les emmène aussi à l'aéroport. Ils partent en Corée dans 3 jours. Ils sont aux Champions, voilà, avec les 30 meilleurs joueurs du monde. Ça enchaîne. Les étapes, c'est ça. Le ping, c'est ça. On a beaucoup de compétitions. Et donc ils enchaînent. Mais ils ont quand même pu prendre un temps avec. On était quand même vraiment, vraiment heureux et on a pris un temps ensemble avec les organisateurs, avec la famille hier soir autour d'une table, toujours pareil. On a pris la table de
toujours
ping-pong.
Toujours autour d'une table, c'est bien. Voilà. Il y a la table de ping-pong et puis il y a la table du repas familial et c'est presque les mêmes chez vous. Merci beaucoup, merci Stéphane Lebrun de nous avoir réservé ces mots ce matin. Un vrai plaisir de vivre ça avec vous. Donc vous qui êtes le père d'Alexis et Félix. Et tout ça, ça sera à suivre, sur la chaîne YouTube et Twitch d'RMC Sport pour la prochaine compétition, donc dans quelques jours.
Et vive le ping-pong.
En Corée, le ping.
Le ping maintenant, on dit ça. Mais on va révéler un secret. Il y a une table de ping-pong à l'entrée de la rédaction d'RMC.
Dans notre rédaction.
Donc tout à l'heure, 9h, face à face, Apolline, petit match. Allez, à tout à l'heure, 9h.
Le défi, vous l'avez bien dit, Stéphane, c'est pour tout le monde, le ping, 7h18.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Le plan Vigipirate de retour à un niveau le plus élevé. Urgence, attentat après l'attaque à Moscou, un attentat revendiqué par une branche de l'État islamique dont les projets d'attaque ont déjà été déjoués en France. Décryptage avec l'un des meilleurs spécialistes des questions terroristes, le journaliste Wassim Nasser. Il sera l'invité du jour, ce sera donc dans 20 minutes à 7h40. Avant cela, le 7h20 d'Apolline Matin, avec une enquête à ne pas manquer d'Amélie Rosic, l'actu est de Manu Le Chypre et puis Arnaud Demanche qui pirate le face à face.
Apolline Matin.
Les indiscrets RMC.
Les coulisses de l'actu avec Nicolas Repère. Bonjour Nicolas.
Bonjour Apolline, bonjour à tous.
C'est toujours le grand flou sur la rentrée scolaire à Paris à cause des Jeux paralympiques qui se tiennent au même moment. Et Nicolas, vous nous révélez ce matin qu'il y aura des déménagements dans des dizaines d'écoles à Paris et en Île-de-France.
Oui, selon nos informations, 80 écoles, collèges ou lycées situés à proximité de sites olympiques pourraient voir leur rentrée perturbée par les Jeux paralympiques qui se déroulent en même temps. Par exemple, dans une école du 15e arrondissement de Paris, la direction a annoncé il y a quelques jours, lors d'un conseil d'école, que la semaine de la rentrée, les élèves devront arriver en classe avant 8h et être repartis avant 13 ou 14h selon les jours. Surprise des parents et des enseignants en apprenant la nouvelle, l'établissement est situé à 500 mètres environ du lieu où sont organisées les épreuves de tennis de table pour les Jeux paralympiques. Mais à la mairie de Paris, on assure que rien n'est encore complètement tranché. Notre objectif est de ne pas perturber la rentrée pour les enfants et leurs parents, dit espérer l'adjoint à l'éducation, Patrick Bloche, qui confirme que des discussions sont toujours en cours avec le ministère de l'Éducation et la préfecture. Une réunion a lieu demain sur le sujet. À Saint-Denis, c'est sûr, 600 collégiens d'un établissement devront déménager dans un autre bâtiment de la ville la semaine de la rentrée, car leur collège est situé en face du village olympique et donc totalement inaccessible. Beaucoup de parents s'inquiètent aussi des perturbations dans les transports scolaires. C'est le cas à Caubron, en Seine-Saint-Denis, qui accueille les épreuves de paracyclisme sur route. Les élèves qui viennent en bus devront faire un détour de près d'1 heure le matin et le soir. Aujourd'hui, on a plein de problèmes, mais trop peu de réponses, déplore le maire Ludovic Toro.
RMC, Apolline Matin, le 7h20.
Apolline de Malherbe.
C'est l'heure du 7h20 d'Apolline Matin avec Amélie Rosic.
Bonjour.
Avec Manu Le Chypre.
Bonjour.
Avec Arnaud Demanche.
Bonjour.
Bonjour à tous les trois. Amélie, aujourd'hui, c'est un père désespéré et choqué d'ailleurs qui vous a appelé à l'aide.
Oui, Jean-Pierre nous a écrit le cœur lourd.
Son fils de 5 ans est en maternelle à l'école Bertrine de Belin-Bélier, c'est en Gironde. Ce petit garçon accuse la maîtresse de châtiments corporels et d'humiliations répétées. Il n'a rien dit pendant des mois jusqu'à ce que la parole se libère dans sa classe. En un mois, 4 familles ont porté plainte pour violences physiques et psychologiques. Et c'est une information RMC, une 5e plainte va être déposée par Jean-Pierre.
Ils se font tirer les oreilles, les gifles aussi hein, qu'il y a eu, qui étaient presque quotidiennes. Hein. On le trouve à changer au niveau du comportement. Il se lève la nuit à 2-3 heures du matin, il pleure, puis il s'est fait pipi dessus. Là. C'était pas arrivé depuis la première année de maternelle.
S'il nous a contactés, c'est parce qu'il se sent totalement abandonné par la direction. Sentiment partagé par Laïna et Emeline qui ont porté plainte et pour qui l'école a trop tardé à agir pour faire cesser ces violences.
Je te mets une claque. Ou je te tire l'oreille parce que tu as dépassé ton coloriage. En fait, ce qui est attendu par nous maintenant, c'est qu'on l'empêche de nuire.
La seule chose qu'on demande, c'est qu'elle soit retirée de l'éducation nationale. Parce que si elle est transférée dans une autre école, ça va se reproduire à nouveau.
L'enfant de cette dernière maman que vous avez entendu, par exemple, est rentré un jour de l'école l'arrière de l'oreille déchirée. Une enquête est ouverte depuis 10 jours par le parquet de Bordeaux et l'enseignante a été mise à pied provisoirement dans la foulée.
Que répond la direction Amélie?
Eh bien rien, notre reporter Marilyn Ottman n'a réussi à joindre personne. Nous voulions pourtant l'interroger notamment sur une première plainte déposée contre cette même enseignante il y a 8 ans pour des faits similaires, plainte qui n'avait pas abouti à l'époque. L'institutrice, une ancienne ingénieure en reconversion d'une 50aine d'années, avait pourtant été convoquée par le rectorat. L'académie refuse à ce stade, et on peut le comprendre, de commenter une enquête en cours, mais indique qu'un accompagnement des élèves est prévu à court, moyen et long terme, sans toutefois nous préciser la forme de cet accompagnement.
Et Amélie, les parents souhaitent que la maîtresse ne revienne pas à l'école. Est-ce que c'est possible?
L'académie nous dit que, nous certifie même que tant que l'instruction est en cours, elle ne reviendra pas. D'ailleurs, il y a une procédure disciplinaire qui est faite en parallèle de l'enquête judiciaire. Et la sanction la plus grave pour l'enseignante serait effectivement le licenciement. On suivra donc le dossier avec une grande attention. Et selon nos informations, les enfants victimes sont entendus demain par une cellule spécialisée de la gendarmerie.
Et vous connaissez le chemin, l'adresse pour vous contacter. Amélie, RMC avec vous, @rmc.fr. L'écho, le gouvernement qui commence à ouvrir de nombreuses pistes d'économie pour tenter de réduire les déficits publics. Qui a du souci à se faire, Manu?
Eh bien, d'abord, et dès cette année, les chômeurs, et particulièrement les chômeurs de plus de 55 ans. On sait que la première priorité du gouvernement, c'est d'abord et avant tout de faire travailler davantage les Français pour augmenter les recettes fiscales et réduire le coût de notre modèle social. Pour ça, les conditions d'indemnisation du chômage vont être encore durcies, et particulièrement pour les chômeurs les plus âgés, avec des allocations chômage versées moins longtemps et qui baisseront plus vite au fil du temps. Et puis, les jeunes aussi vont payer un certain tribut à la rigueur, avec des réductions de budget, notamment sur l'apprentissage, même si ce n'était pas toujours bien calibré. Et puis diverses aides sans conditions de ressources qui pourraient, elles aussi, être rabotées. On pense aux passes culture.
Et au-delà de 2024, ça va être quoi?
Alors là, il y a deux catégories de Français qui, elles, sont sensiblement visées. C'est les Français les plus riches qui pourraient être mis à contribution, et peut-être au niveau européen, soit à travers une contribution exceptionnelle, soit à travers une hausse de la fiscalité sur le patrimoine. Et puis, les retraités, jusque-là épargnés, pourraient devoir aussi fournir un effort, puisqu'un allègement des cotisations sociales pour augmenter le salaire net de ceux qui travaillent pourrait être compensé par une augmentation de la CSG, voire une augmentation aussi de la TVA. Et ce sont les retraités qui devraient aussi subir le plus de restrictions sur les dépenses de santé.
Et sur ces questions justement de rabot, où est-ce qu'on pourra trouver les sous? Ne manquez pas Bruno Le Maire face au GG, le ministre de l'économie qui sera donc l'invité des Grandes Gueules. Ce sera à 10h ce matin sur RMC et RMC Story. Arnaud Demanche,
oui,
d'ici là, l'invité du face-à-face ce matin, Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale.
La militante néo-communiste Yael Braun-Pivet qui a jeté un pavé. Elle la connaît par cœur.
C'est Amélie.
Le pavé dans la mare macroniste jeté par Yael Braun-Pivet. Elle s'est prononcée pour une hypothétique taxation des super-profits pour boucler le budget. Alors là, c'est une trotskiste. Là, c'est la fille cachée d'Arlette Laguiller et Léonide Brejnev. Parce que taxer les riches, c'est le gros mot ultime en Macronie. C'est un peu comme si Sandrine Rousseau voulait remplacer la Marseillaise par femme des années 80 de Michel Sardou. C'est comme si Jean-Marie Le Pen se convertissait à l'islam. Et
ça n'arrivera pas, miskine.
C'est comme si Manu Le Chypre se faisait pousser des dreadlocks pour inciter à la décroissance lors d'un barbecue solidaire à la fête de l'UMA. Donc la proposition a fait réagir le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a dit Non. Allez, fin de l'histoire. Bien essayé, Yaël. La présidente de l'Assemblée nationale a aussi annoncé consulter les partis pour réfléchir au retour de l'élection des députés à la proportionnelle. C'est un vieux truc, la proportionnelle. Ça a été mis en place une fois, c'était en 86. Après, Mitterrand avait perdu l'Assemblée, il a cohabité avec Chirac et le Front national avait eu 35 députés. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée pour les macronistes? Ils vont finir avec 450 députés RN, c'est pas sûr que ça serve le projet présidentiel. Alors oui, c'était une promesse du président, mais bon, zéro SDF dans les rues aussi, c'était une promesse du président. On va tenir celle-là peut-être pour commencer. On n'est pas obligé de représenter toute la population française à l'Assemblée. Tiens, selon une étude IFOP, 9% des Français croient possible que la Terre soit plate.
Faut-il les représenter?
On n'est pas obligé d'en avoir 9% de platistes à l'Assemblée. On ne va pas élire le leader du parti platiste, platiste Bertrand, à l'Assemblée. Il va venir avec son slogan « Ça plate pour moi, ça plate pour moi ». Bref, est-ce qu'on est obligé? Eh bien, Yaël Braun-Pivet va nous le dire à 8h30.
Je lui pose la question tout à l'heure à la présidente de l'Assemblée nationale. Rendez-vous à 8h30, on vous retrouve d'ici là, à 7h20. Tout à l'heure, Arnaud. 7h31 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal Élise Dangean, bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Lundi, 122 établissements vont exploser. C'est la menace reçue ce week-end par une vingtaine de collèges et lycées des Hauts-de-France qui seront donc sécurisés par les forces de l'ordre ce matin. Les forces de l'ordre sur le pont partout en France, où le plan Vigipirate a été rehaussé à son niveau maximal après l'attentat qui a frappé Moscou vendredi. Lyon, en indigestion, la ville veut réguler l'installation des fast-food dans ses rues pour défendre son patrimoine gastronomique.
Reprise des cours sous haute surveillance ce matin dans les Hauts-de-France.
Avec les forces de l'ordre positionnées devant une vingtaine d'établissements scolaires visés par de nouvelles menaces terroristes envoyées comme la semaine dernière en Île-de-France via les espaces numériques de travail des élèves. Des élèves forcément pas très rassurés. Illustration à Amiens dans la Somme avec Lucas Laubert pour RMC.
Les écouteurs dans les oreilles, Fidelio, 14 ans, marche devant le collège Rosa Parks. Il est en classe de 4e ici. Ce sont ses camarades qui l'ont averti des menaces d'attentat sur la messagerie interne.
L'unité a été fermée vendredi soir et puis on n'a aucune nouvelle.
Alors Fidelio en a discuté tout le week-end avec ses amis pour se rassurer, mais il reste inquiet.
Tout ça, ça fait peur quand même, parce que c'est des menaces sur mon collège. On ne sait pas ce qui va se passer. Je préfère avoir des nouvelles quand même pour être sûr de ce qui s'est passé. Et puis comme ça, on peut aller au collège en sécurité.
De l'autre côté d'Amiens, le collège Sage Bien, lui aussi, a reçu des menaces. Avec le plan Vigipirate, les sacs étaient déjà contrôlés à l'entrée, mais pour Louis, collégien ici, ça ne suffit pas pour rassurer.
Avec les menaces qui ont été faites, on ne sait pas à quoi s'attendre du coup. Je sais qu'ils ne fouillent pas les sacs, ils font que regarder à l'intérieur.
Des inquiétudes et des menaces que prend au sérieux Roland Mouchet-Blaiseau, le préfet de la Somme.
À la fois, il y aura des équipes mobiles de sécurité dans ces établissements. Bien sûr, les forces de police et les forces de gendarmerie feront des patrouilles et seront à l'entrée des établissements.
En plus de ce dispositif, la préfecture de la Somme annonce ouvrir des cellules d'écoute pour ceux qui ont été choqués par ces menaces.
Et pour ne rien arranger, la France est désormais en alerte urgence attentat, le plus haut niveau du plan Vigipirate, décision prise hier soir par le gouvernement à l'issue d'un conseil de défense à l'Élysée après l'attentat qui a fait au moins 137 morts à Moscou. Un massacre revendiqué à plusieurs reprises par l'État islamique. 4 des assaillants présumés ont d'ailleurs été placés en détention provisoire en attendant leur procès dont la date n'a pas encore été fixée. Mais pourtant, c'est bien l'Ukraine que les autorités russes pointent du doigt, ce qui laisse craindre une nouvelle escalade dans les combats pour les Ukrainiens désignés coupables. Tout ça n'est rien d'autre qu'une manœuvre politique, Marion Gauthier.
Les dernières nuits ont été courtes, souffle Jackie depuis Jytomyr à l'ouest de Kiev. D'intenses bombardements ont fait trembler les villes ukrainiennes après l'allocution de Vladimir Poutine, témoigne-t-il.
Et il va se passer des choses très désagréables dans les jours qui viennent et on est impuissant. Là aujourd'hui, tout le pays est rouge, c'est alerte nationale avec recommandation de ne pas sortir de chez soi.
Si le Kremlin met l'attentat de vendredi sur le dos de l'Ukraine, c'est pour justifier une nouvelle mobilisation, craignent certains, mais Victoria refuse de se laisser perturber.
C'était très attendu. Ça aurait été plus surprenant qu'ils n'accusent pas les Ukrainiens.
Le rire pour garder la distance et la tête froide.
Son discours, c'était au milieu de très grosses attaques sur l'Ukraine. Quand la moitié de votre pays n'a plus d'électricité, votre priorité, ce n'est pas vraiment Poutine, et encore moins ce qu'il dit.
Même résignation chez Anna.
Les enfants kidnappés, les tortures, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut imaginer qu'il puisse faire pire. Je n'ai pas envie de penser à ça. En fait.
Tous confient une immense fatigue après plus de 2 ans de guerre et de nuits morcelées par l'explosion des missiles russes.
Des contrôles de tous les établissements sociaux et médico-sociaux français à partir de 2025. Voilà ce que vient d'annoncer le gouvernement dans le cadre de son plan de lutte contre les maltraitances envers les personnes âgées et handicapées. 9200 établissements sont concernés. Il est 7h35 vers la fin de la malbouffe dans la capitale de la gastronomie. La mairie de Lyon veut réguler l'installation des chaînes de fast-food et des dark kitchens dans son centre-ville. Elle fait valoir la défense de son patrimoine. Ce sera discuté à l'automne dans le cadre des du commerce et de l'artisanat. Mais alors, qu'en pensent les Lyonnais ? Vincent Chevalier leur a posé la question pour RMC.
En plein cœur de la presqu'île de Lyon, la rue de la République, artère la plus fréquentée de la ville, avec son lot de fast-food.
Oui, il y en a quand même pas mal, parce que là, on a le McDo, là-bas, on a Five Guys, même là-bas, on a encore un McDo.
Sans compter les kebabs et autres tacos du quartier, lieu fréquenté par Raphaël, 15 ans, et ses amis.
C'est arrangeant pour certaines personnes qui n'ont pas les moyens, et puis c'est bon et c'est rapide.
Alors, réglementer leur installation, pourquoi pas, même si toutes les enseignes ne se valent pas, selon Théo.
Les petits fast-food de personnes indépendantes, ça peut être quand même pas mal d'en rajouter, donc... Pourquoi pas ? Tout dépend de quel fast-food.
Pour d'autres habitants, il y a urgence. Jean-Richard habite la presqu'île depuis 10 ans. Il a vu son quartier changer et redoute la suite.
Si ça continue dans le même sens, bientôt il n'y aura plus de bouchons, il n'y aura plus rien, parce que bon, les gros groupes vont tout prendre. Hein.
Cette prise de position de la mairie est une très bonne nouvelle pour l'UMI, le syndicat de l'hôtellerie-restauration du Rhône. Un travail important doit être fait.
Le premier lieu, ça va être le financier.
Thibaut Salva, président de la branche restauration.
Les niveaux de loyer demandés sont exorbitants et ça va être le nerf de la guerre.
La ville de Lyon veut organiser d'ici l'automne une concertation des acteurs politiques et économiques pour trouver des solutions.
Et vous êtes plutôt saucisson brioché ou Big Mac, vous venez réagir cette décision d'interdire les nouveaux fast-food dans le centre de Lyon. Est-ce que vous êtes pour ou contre le 32-16, vous êtes ouvert?
7h37 sur RMC, il est plus que jamais candidat à moins de 4 mois des Jeux Olympiques. Florent Manaudou a répété son envie, son rêve de devenir porte-drapeau des Bleus. Il était l'invité de l'émission Bartoli Time hier soir sur RMC.
Très fier de pouvoir l'idée l'équipe de France, ne serait-ce que sur la cérémonie d'ouverture qui serait unique. C'est quelque chose qui me fait rêver, parce que quand je vois les porte-drapeaux précédents, c'est des gens qui ont été des inspirations pour moi. Donc j'estime que si jamais un jour je suis porte-drapeau, ça voudra dire que je suis peut-être aussi une inspiration pour des jeunes.
Et un mot de rugby pour terminer avec Bordeaux qui a fait le show hier soir en clôture de la 19e journée de Top 14. L'UBB est venu à bout du Stade Toulousain 31-28. Une victoire qui permet aux Girondins de revenir dans le top 3.
Et puis le quintet, 13h55 sur l'hippodrome de Fontainebleau.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori aujourd'hui, c'est le numéro 9, Impitoyable. Et l'outsider, c'est le numéro 15, Pradaro. La course du quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
Mais oui, parce qu'il y a le quintet pour gagner, mais il y a aussi RMC, vous l'avez entendu, c'est l'alerte. L'alerte pour le jeu du coffre, le grand retour du coffre RMC. Vous avez donc 5 minutes pour envoyer coffre au 7-32-16. Coffre au 7-32-16. Il y aura 2 500 € pour l'auditeur qui sera sélectionné vendredi prochain. Et ensuite, attention, soit une semaine de vacances, soit la somme de 50 000 € qui sera peut-être cachée dans le coffre. L'alerte peut retentir à tout moment. Là, vous avez 5 minutes pour envoyer coffre par SMS au 7-32-16 et l'alerte peut revenir à tout moment. Soyez attentifs et bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. RMC, 6h39.
Apolline Matin.
L'attentat de Moscou marque-t-il le retour de l'État islamique ? Est-ce que la France est aussi une cible ? Qui se cache derrière cette branche de Daesh qui a revendiqué l'attentat en Russie ? Vous aurez toutes les réponses à ces questions dans un instant avec l'invité du jour, l'un des meilleurs connaisseurs de l'État islamique aujourd'hui, le journaliste Wassim Nasr. À tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42 et vous êtes bien sur RMC.
L'invité du jour.
Bonjour Wassim Nasr.
Bonjour.
Vous êtes l'un des meilleurs connaisseurs aujourd'hui du fonctionnement de Daesh, l'État islamique qui a revendiqué l'attentat de Moscou vendredi. Vous êtes journaliste à France 24, chercheur, auteur de L'État islamique, le fait accompli. Et là, on a l'impression qu'ils ont vraiment accompli, en effet, un fait avec cet attentat de vendredi. Mais je voudrais d'abord vous interroger sur la conséquence immédiate ici en France. Hier soir, tard, après un conseil de défense, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé que la France passait à nouveau à son niveau le plus élevé de menace attentat, ce qu'on appelle le retour de urgence attentat. Ça veut dire que la France, aujourd'hui, est une cible.
Évidemment, la France n'a jamais cessé d'être une cible. Ça fait partie des cibles prioritaires, en tout cas de l'État islamique. Rappelez-vous l'attaque à Arras, l'attaque de la Tour Eiffel, avant elle l'attaque à Bruxelles. Tout ça, c'était l'État islamique. Et c'était il y a quelques mois. Après, il faut faire la part des choses, faire la différence entre susciter une action terroriste, donc pousser quelqu'un à l'action, comme on a vu ici dernièrement en France, en Europe, à Vienne.
Et j'en passe. Et une équipe projetée. Directement, voilà. Mais c'était d'inspiration de l'État islamique, ça que vous voulez dire ?
Inspiration de l'État islamique, mais il n'a pas mis des moyens, on va dire, pour projeter une équipe, comme c'était le cas pour le 13 novembre, qui était une exception, en fait. Parce que même les attentats de Bruxelles, quelques mois plus tard, en 2016, ils étaient déjà à Bruxelles. Ce n'est pas des gens qui sont venus de Syrie. Après, ce qui est différent avec Moscou, c'est que là-bas, c'est facile d'avoir de l'armement. Et on oublie souvent que l'État islamique a beaucoup recruté dans les rangs, des pays, des anciennes républiques soviétiques. C'est, j'avais travaillé il y a 12 ans sur ce que j'avais appelé le djihad familial. Donc c'était des familles entières, des clans même entiers, qui avaient quitté ces pays-là pour aller vivre en Syrie sous le règne de l'État islamique. Donc le problème avec la Russie, il est ancien. La dette de sang, elle est très ancienne. La Russie a été attaquée plusieurs fois par l'État islamique. Je parle du territoire russe, hein, pas de la guerre au Caucase. Hein. C'est des attentats. Il y en a eu deux en 2016, trois en 2017, dont un à Saint-Pétersbourg, deux en 2018, un en 2019. Et le 7 mars de cette année, les forces de l'ordre russes ont empêché un attentat contre une synagogue à Moscou. Donc la menace est constante en ce qui concerne tous les pays qui sont les cibles de l'État islamique, et donc ce qui inclut pratiquement tous les pays du monde.
Pratiquement tous les pays du monde. Aujourd'hui, Gabriel Attal explique que cette branche de l'État islamique qui a donc revendiqué l'attaque à Moscou a projeté des attentats en Europe, avait d'ailleurs projeté des attentats qui auraient été déjoués. Est-ce que vous savez de quoi il parle ?
Oui, je sais très bien de quoi il parle. Il y a plusieurs attentats qui ont été déjoués avec des ressortissants de ces mêmes des anciennes républiques soviétiques qui font partie, qui ont été en tout cas missionnés par cette branche de l'État islamique qui est basée en Afghanistan. Donc l'État islamique, Khorasan. Khorasan, c'est cette région, le nom historique de cette région qui comprend Afghanistan, Pakistan, une partie des pays des anciennes républiques soviétiques et une partie de l'Iran. Donc c'est cette branche-là qui a aujourd'hui les capacités de missionner des gens pour faire des attentats en Europe, en Russie, mais pas que. Le dernier grand attentat en Iran, c'était eux aussi.
Mais est-ce que ça veut dire, Wassim Nasr, qu'il y a des moments où, en quelque sorte, ces cellules terroristes sont dormantes et d'autres moments où elles se réveillent, en quelque sorte ? Est-ce que l'attentat de vendredi à Moscou est le signe d'un réveil de cette menace plus directe, donc de l'État islamique ?
Non, je dirais pas ça. L'État islamique profite des brèches. Ils sont toujours dans une dynamique de menace et de préparer des attentats. Des fois, ils en ont les moyens. Des fois, ils sont arrêtés. Plusieurs attentats ont été déjoués en Europe et ici même en France. C'est de manière constante. Et cette fois-ci, pour Moscou, je vous rappelle encore une fois, un attentat a été déjoué le 7 mars, une autre cellule de l'État islamique. Là, ils y sont arrivés. Le 13 novembre, ils sont arrivés. À Bruxelles, ils sont arrivés une fois. À Vienne, une fois. Donc, ils sont dans cette dynamique. Des fois, ils y arrivent. Des fois, ils n'y arrivent pas. Mais voilà, la menace est bien construite.
Ils profitent des brèches, comme vous dites.
Des brèches géopolitiques, comme la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza, etc., etc. Dès qu'il y a une ouverture, ils en profitent. Ils ont leur propre agenda.
Une forme de désordre dans lequel ils s'insèrent.
Bah, quand on n'est pas trop concentré sur eux, ils en profitent.
Quatre suspects sont en prison. Est-ce qu'on est sûr qu'il s'agit, oui ou non, des auteurs présumés donc de cette attaque ?
3 sur 4, d'après leur habillement pendant leur arrestation et leur corpulence, correspondent aux images diffusées par l'État islamique. Donc les vidéos diffusées par l'État islamique, on les voit tuer des gens, égorger des gens et bouger à l'endroit où ils ont commis leur forfait.
Vous avez vu ces vidéos,
oui.
et effectivement, elles sont revendiquées. Comme l'attentat est revendiqué, ils mettent en avant ceux qui, pour eux, sont des héros.
Ah oui, évidemment. Après, ça a suivi le process habituel de la revendication. Donc, une première revendication brute, en disant, en gros, c'est nous, ils ont fait ce qu'ils ont fait, puis ils ont réussi à partir, ce qui était vrai. Cette revendication était de la nuit de l'attentat. On n'avait pas cette info, comme quoi ils étaient partis des lieux. C'est l'État islamique qui l'a donné. Le lendemain, ils ont donné le détail, comme quoi 3 ont tué des gens, égorgé des gens. Le 4e a brûlé le théâtre, puis il y a eu la photo, et puis la vidéo. Et ils ont pris soin quand même, par 2 fois, de dire que ceci rentre dans le cadre habituel de leur guerre avec les pays qui combattent l'islam et avec la Russie.
Wassim Nasr, on parle régulièrement des JO de Paris comme étant l'un des moments de pic de la menace. Est-ce qu'effectivement, d'après ce que vous entendez, vous voyez de ces dialogues aussi, parce que l'État islamique parle, revendique, assume en quelque sorte, est-ce qu'en effet, les Jeux Olympiques à Paris font partie de leur cible et des événements auxquels ils songent ?
Écoutez, évidemment, j'ai envie de dire, parce que c'est un événement international, Dès qu'il y a un événement international comme ça, de surcroît un événement olympique, donc tous les yeux du monde regardent dans cette direction. Rappelez-vous Munich, donc c'était pas l'État islamique, mais c'était quand même un événement sportif en 1972. Où les athlètes israéliens
ont été pris en otage.
Voilà. Donc quand il y a un événement international comme ça, évidemment que c'est une cible potentielle. Même j'ai dit un mot sur les attentats de Bruxelles en 2016. L'équipe à Bruxelles normalement devait s'attaquer au tournoi de football qui allait se dérouler à Paris. Mais ils n'ont pas
pu. Donc les événements sportifs populaires, larges, internationaux.
Absolument. Mais après, en même temps, évidemment aussi du côté des services de l'État, des services européens, les Américains, tout le monde aussi surveille cet événement. Par exemple, les Américains, ils ont quand même prévenu les Russes, malgré le gros contentieux qu'il y a en Ukraine. Les Américains ont prévenu les Iraniens avant l'attentat en Iran, malgré le gros contentieux.
Mais ça n'a pas été pris au sérieux par les Russes.
Après, je ne sais pas si ça a été pris au sérieux. En tout cas, Poutine ne l'a pas pris au sérieux, mais on ne sait pas si ses services l'ont pris au sérieux.
Ce qui veut bien dire que, quelles que soient les relations, effectivement, entre la Russie et les États-Unis, sur la question de l'antiterrorisme, il reste une solidarité internationale.
En tout cas, les Américains préviennent. Et il n'y a pas meilleur exemple que la Russie avec ce qui se passe en Ukraine et l'Iran, leur ennemi juré au Levant aujourd'hui, ils l'ont quand même prévenu qu'il y avait un attentat qui se préparait. On était, c'était un mois et demi de moins.
Donc on peut
la guerre de Gaza avait déjà été déclenchée, etc. Après, ça c'est une chose. Mais prévenir, c'est une chose. Mais après, est-ce que les services en question qui ont été prévenus sont en capacité d'arrêter l'attentat ou pas? En Russie, les Russes ont réussi le 7 mars à arrêter un attentat. Le deuxième, ils n'ont pas réussi.
Et le deuxième, malheureusement, on l'a vu vendredi, n'ont pas réussi. Wassim Nasr, merci d'être venu nous donner toutes ces explications remarquables. Vous êtes journaliste à France 24, chercheur et auteur de l'État islamique. Le fait accompli, merci à vous. 7h49 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, tout autre chose, ce sera expliquez-nous avec vous, Nicolas.
Et je vous explique que c'est un département très particulier qu'Emmanuel Macron visite aujourd'hui et demain. C'est la Guyane qui souffre d'insécurité et d'enclavement.
A tout de suite.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus RMC, le bonus de Charles. Un groupe breton rencontre un incroyable succès grâce à TikTok.
Oui, c'est l'histoire du groupe Mediavolo, originaire de Brest. En 2006, il publie un titre baptisé Mass Anesthesia. Vous ne connaissez pas et c'est bien normal, à l'époque le succès est très relatif, quelques centaines d'auditeurs à peine. Mais c'était sans compter sur la magie d'internet et des réseaux sociaux. 15 ans après la sortie de cette chanson complètement passée sous les radars, une ado canadienne tombe dessus sur YouTube. Elle l'utilise pour ses vidéos TikTok, ses abonnés commencent à en faire autant et rapidement le buzz est planétaire. Près de 5 millions d'écoutes en quelques semaines sur Spotify. Entre temps, les deux membres du groupe, Géraldine et Jacques, avaient revu leurs ambitions à la baisse, étaient devenus profs de musique jusqu'à ce succès. C'est surprise.
On en a pris connaissance par le biais d'une notification YouTube. La personne, en substance, nous dit en anglais il se produit quelque chose sur TikTok, vous devriez aller voir. T'as le réflexe d'aller sur Spotify quand même.
Sur Spotify, et là on découvre des chiffres qu'on n'avait pas l'habitude d'observer.
À tel point qu'ils sont aujourd'hui courtisés par des labels américains pour relancer leur groupe 15 ans plus tard, alors qu'ils étaient sur le point, on peut le dire, de tomber aux oubliettes. J'adore.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h54, Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous.
Expliquez-nous, Nicolas. Emmanuel Macron arrive ce matin en Guyane pour une visite de deux jours. Il est attendu sur le thème de l'insécurité et du désenclavement.
Oui, c'est un département très particulier qu'Emmanuel Macron va retrouver aujourd'hui. La première fois qu'il s'y était rendu, c'était en 2017, juste après son élection. Il venait alors d'être élu avec 65% des voix en Guyane face à Marine Le Pen au deuxième tour. Il y retourne aujourd'hui, alors qu'en 2022, eh bien, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête en Guyane avec 60% des voix. Un renversement de tendance spectaculaire, principalement dû à la question de l'insécurité. On a compté l'an dernier 59 homicides, c'est-à-dire 20 pour 100 000 habitants, alors que la moyenne en France, c'est 1,5. Le nombre des vols à main armée représente 10% de ceux enregistrés dans toute la France, alors que la Guyane, c'est simplement 0,5% de la population française. C'est donc bien le département français le plus criminogène, devant Mayotte et très loin devant les départements comme la Seine-Saint-Denis ou les Bouches-du-Rhône. En 2017, le territoire avait été bloqué pendant un mois par un mouvement social et les grévistes réclamaient principalement plus de sécurité. Un groupe radical qu'on appelait les 500 frères, composé d'hommes cagoulés, avait forcé les commerçants à fermer boutique. C'était une sorte de milice en lutte contre quoi? Eh bien contre la délinquance. Finalement, ses 500 frères étaient rentrés dans le rang, mais l'on sait depuis que la question de la sécurité peut être tout à fait explosive en Guyane.
La délinquance en Guyane, c'est aussi le trafic de drogue.
Oui, et Emmanuel Macron va se faire présenter aujourd'hui ou demain un système très particulier qui a été mis en place depuis 2 ans. La ligne aérienne entre Cayenne et Paris est la principale porte d'entrée de la cocaïne en métropole. Et longtemps, il y a eu peu de contrôle au départ parce que la justice sur place n'avait pas les moyens de poursuivre tous les passeurs et parce que les prisons n'étaient pas assez grandes pour les accueillir. Si bien que l'on a décidé désormais que tous les passagers, 100% d'entre eux, seraient contrôlés, mais que ceux qui se font prendre avec de la cocaïne ne sont pas poursuivis. Résultat, le trafic a fortement diminué grâce à ces contrôles 100%, mais Cayenne est le seul endroit de France où on peut être contrôlé avec 100 grammes de cocaïne. On vous prend la drogue, mais vous pouvez rentrer chez vous juste après. C'est une particularité guyanaise.
Les Guyanais espèrent aussi des mesures en faveur du désenclavement.
Oui, parce que la Guyane est le plus grand département de France et de loin, 8 fois plus vaste que le deuxième plus grand qui est la Gironde. Seulement en Gironde, il y a 20 000 km de route et en Guyane, seulement 400. En fait, il n'y a pratiquement qu'une seule route qui longe la mer de la frontière brésilienne jusqu'à Saint-Laurent du Maroni. En dehors des communes côtières, toutes les autres ne sont accessibles qu'en avion ou en pirogue. Aujourd'hui, Emmanuel Macron se rendra dans une de ces communes isolées, Camopi, à la frontière du Brésil. C'est une commune de 2000 habitants avec un collège, une école avec 200 élèves. Il y a 2 médecins, 2 épiceries, 1 restaurant, mais il y a 6 heures de pirogue pour pouvoir rejoindre la première route. Il existe des projets pour construire des pistes à travers la forêt équatoriale, mais pas à la hauteur de ce qui est attendu. Lors de son dernier voyage en Guyane, Emmanuel Macron avait été interrogé sur la construction d'un hôpital et il avait répondu « Je ne suis pas le Père Noël ». Et c'est une phrase qui avait beaucoup frappé les esprits. Il est assez peu probable qu'aujourd'hui Emmanuel Macron se comporte en Père Noël. Pas comme Jacques Chirac, qui, lui, en 1997, avait décidé de faire construire un pont sur le fleuve qui sépare la Guyane du Brésil, un magnifique pont qui n'a pu être inauguré que 20 ans plus tard, parce que côté brésilien, aucune route n'avait été construite. Le pont de 50 millions ne menait nulle part. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, pratiquement personne ne l'emprunte. C'est un pont symbole de ce qu'il ne faut pas faire dans ce territoire français, très grand, très jeune et très pauvre.
Oui, si c'est un pont qui ne va nulle part, en effet. Ce ne sera donc pas le Père Noël, mais enfin, cette visite de 2 jours, merci pour toutes ces explications, Nicolas. 7h57, dans un instant, la météo, le journal de 8h, à la une du journal, on reviendra sur cette décision hier de franchir le niveau le plus élevé de l'alerte attentat, urgence attentat. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que ça va changer dans votre quotidien? Les explications dès 8h.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.